Et maintenant, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi le Saint-Livre dans l'Évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 3, on va lire les 6 premiers versets. Nous lisons ensemble. « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant les regards sur eux, avec indignation et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Amen. C'est une scène qui m'a toujours frappé parce qu'on y voit là Jésus toujours rempli d'amour, de compassion. Et de l'autre côté, on voit des hommes qui n'ont qu'un seul souci, c'est de vouloir piéger Jésus-Christ. Au cours de son ministère terrestre, Jésus-Christ a de nombreuses reprises rencontré, eu des contacts avec des personnes qui voulaient le questionner uniquement dans le but de l'accuser. On peut dire que Jésus était habitué à voir de l'opposition, à voir en face de lui des personnes qui n'étaient pas intéressées par son message, mais qui étaient intéressées sur le seul fait de pouvoir le piéger, de pouvoir le mettre à mal. Et on est là dans ce contexte où Jésus, encore une fois, va dans la synagogue. C'était le jour de sabbat. Alors le sabbat, c'était un jour qui avait été prévu par Dieu, mis à part pour que les hommes puissent se sanctifier, puissent tourner leur regard, tout leur être vers le Seigneur, vers Dieu, vers celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu avait voulu le sabbat. C'était pas une invention des hommes, c'est Dieu qui a voulu cela. Mais le problème, c'est que les hommes, comme toujours, vont détourner ce que Dieu a fait à leurs propres avantages, pour eux-mêmes, pour satisfaire leurs besoins, pour satisfaire leur envie de pouvoir maîtriser les situations et les choses. Ils vont détourner le sabbat voulu de Dieu pour satisfaire leur chair et dire « voilà, c'est ainsi, c'est devenu une loi, une règle irrévocable ». C'est devenu quelque chose qui a pris tellement d'ampleur que lorsque Jésus-Christ va venir, et on l'a pas lu, mais c'est dans le chapitre d'avant, Jésus-Christ va comme remettre les pendules à l'heure en leur disant « mais attendez, attendez, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Autrement dit, il va rééquilibrer les choses. Et Jésus ainsi va, et lorsqu'il rentre dans cette synagogue, ce jour de sabbat, Jésus savait pertinemment qu'il allait se confronter aux difficultés, à l'opposition des hommes religieux. Mais c'est pas ça qui a arrêté Jésus-Christ. Il aurait pu dire, mais voilà, je ne vais pas aller dans cette synagogue parce que je sais qu'ils vont me poser encore des questions, je n'ai pas envie, j'ai pas envie de vivre cela, je vais aller faire du bien ailleurs, je vais aller dans tel endroit, je vais aller dans telle ville pour guérir, pour faire du bien à d'autres personnes, à des personnes qui avaient besoin. Jésus aurait pu le dire. Mais je pense que, et c'est mon premier point, qu'il était important qu'il passe dans cette synagogue parce que nous l'avons lu, il y avait un homme. Un homme qui avait la main sèche. Et c'est ce premier point que j'ai intitulé « Jésus ne se lasse pas de toi, ne se lassera jamais de toi, de nous ». Ce soir, on est là pour le rappeler. Parce que, alors que nous avons lu le texte ensemble, il est intéressant de souligner cette réalité, c'est que Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ça sous-entend que ce n'était pas la première fois qu'il mettait les pieds dans cette synagogue. On peut comprendre aisément par la parole, d'autres évangiles relatent ces faits, Marc n'est pas le seul, l'évangile de Marc n'est pas le seul, d'autres évangiles, mais là il y a ce détail qui est là de nouveau, comme pour dire, mais Jésus était déjà venu, Jésus était déjà passé. On pourrait dire ce soir, à la lumière de notre temps moderne, qu'il y avait déjà eu une prédication. Ce n'était pas la première prédication, ce n'était pas la première fois que l'Évangile était prêché, ce n'était pas la première fois qu'il y avait un contact avec Jésus-Christ, ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci c'était important, cette fois-ci tout était différent, cette fois-ci il y avait un rendez-vous. Et c'est ce genre de rendez-vous dont on aimerait vous parler ce soir, parce que c'est ce genre de rendez-vous qui peut changer une vie, bouleverser une existence. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il y avait un homme dans cette synagogue, un homme qui était meurtri, un homme qui était peut-être usé par la vie, et on le verra un petit peu plus loin, un homme qui était peut-être là, peut-être que c'était la première fois, peut-être que c'était la deuxième, troisième fois, que sais-je, la Bible ne le dit pas, on peut tout imaginer, mais que ça soit la première fois que cet homme soit présent, ou la dixième, ou la vingtième fois, ce qui va changer dans sa vie, ce n'est pas qu'il se dise « mais voilà, mes journées vont toujours être les mêmes, mon passage dans la synagogue ne va pas changer ma vie, la seule chose qui pourra changer la vie de cet homme, c'est Jésus-Christ ». Oui, de la croix, la grâce coule. Et on pourrait dire, même si lorsque nous lisons ce texte, Jésus-Christ n'est pas allé à l'apogée, n'est pas allé jusqu'à la croix encore, mais nous, à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait, nous pouvons dire, prendre de l'avance, oui, la grâce a coulé dans cet instant pour cet homme. Et j'aimerais vous dire que Jésus ne se lasse pas de toi, de nous, ce soir. Jésus savait qui viendrait dans ce lieu. Jésus savait peut-être que ce n'est pas la première fois que tu allais entendre un message, et même si c'est la première fois, merci Seigneur, parce que cette réalité la même, cette vérité est toujours la même, elle n'a pas changé, c'est que Jésus-Christ nous aime. C'est que Dieu a voulu nous donner son Fils pour que nous puissions avoir le secours dans notre vie, dans notre âme. Parce que ce que cet homme a vécu et vivait dans ces instants, cette main sèche qui était là avec lui, on pourrait dire cette main paralysée, on pourrait dire, et on le verra encore un petit peu plus loin, cette main qui était sans vie, on peut dire et comprendre aisément qu'il avait besoin que quelqu'un vienne pour mettre de la vie en lui. Le psalmiste, à un moment donné, va dire, en parlant de Dieu, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour ça que Jésus-Christ a de nouveau pris la peine de venir dans la synagogue. Que Jésus-Christ est de nouveau venu, a voulu se déplacer encore, quand bien même il savait que sa venue ne serait pas acceptée des hommes religieux. Quand bien même il savait qu'il devrait s'expliquer, qu'il y allait avoir de l'opposition, Jésus-Christ savait, parce qu'il avait vu, il connaissait le cœur de cet homme, son cœur brisé. Il sait ce que tu traverses, il sait lorsque tu viens dans ce lieu, il sait par où tu es passé, quelle a été ta journée, quel a été le début de semaine, la semaine passée, les mois qui ont suivi. Jésus-Christ sait ce que tu vis. Et le message de ce soir, c'est un message d'espérance, un message qui peut changer une vie, c'est un message qui renverse peut-être ce que tu as pu apprendre. Jésus-Christ, Dieu sait ce qui se passe dans ta vie, Dieu n'est pas loin de ce que tu peux vivre, Dieu n'est pas étranger à ta vie, Dieu n'est pas complètement déconnecté de ce qui peut se passer dans ta vie, Dieu n'est pas lointain en disant « mais tant pis pour toi si tu es triste, tant pis pour toi si tu es malheureux, tu avais qu'à m'écouter, tant pis pour toi si tu as pris les mauvaises décisions ». Il ne s'agit pas de ça ce soir, mais ce soir il s'agit de Jésus-Christ, au travers de la parole, au travers des chants. Au travers de la prière, il s'agit d'un Jésus-Christ qui est attentif à ton égard. Et on pourrait se poser la question, mais combien de fois est-ce qu'il faudra que Jésus-Christ vienne à ta rencontre? Est-ce qu'on pourrait dire, il ne s'agit pas, on n'est pas dans une synagogue ce soir, mais on pourrait dire, mais Jésus entra de nouveau dans l'église de Sainte-Agne. Jésus entra de nouveau parce qu'il savait que dans ce lieu, il y a des personnes qui ont besoin d'être touchés par lui. Jésus entra de nouveau à l'église de Sainte-Agne parce qu'il connaît que peut-être ce soir parmi nous, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, meurtri, qui porte des choses dans sa vie et qui ont besoin, peut-être que tu as besoin, excusez-moi, je te tutoie, peut-être que tu as besoin d'être touché, d'être pris en main, d'être béni par le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense, non pas je pense et j'en suis sûr, j'ai cette conviction que Jésus-Christ veut le faire. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Voilà ce que dira le psalmiste au psaume 147, verset 3. Dans un autre passage, nous pouvons lire, et je le lis pour vous, c'est dans Ésaïe 57. On dira « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Voilà, ainsi va s'exprimer le prophète au travers du Saint-Esprit. Ceci nous relate le cœur de notre Dieu, le cœur de notre Dieu, de Dieu le Père. Mais Dieu est élevé, Dieu est saint et on le sait, Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Mais au travers de cela, on comprend facilement que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Parce qu'il voulait être et parce qu'il veut être avec les esprits contrits, humiliés, avec les personnes, à l'image de cet homme qui avait la main sèche, qui peut-être s'était arrêté sur sa vie en disant « mais c'en est ainsi, il ne pourra rien changer ». Ma vie est ainsi marquée. Il y a pris une feuille pour reprendre l'image que Antoine a prise. Oui, nous pouvons naître de nouveau. Et peut-être que sur ta feuille, ce n'est pas une feuille blanche ce soir. Ce n'est pas une feuille où il y a la main et le stylo de Dieu qui veut écrire ta vie encore. Tu n'en es pas là. Peut-être que sur ta feuille, il y a quelques ratures, il y a quelques annotations. Il y a quelques traits rouges qui viennent là comme marquer ta vie, ton existence, des choses que tu aimerais bien qu'ils soient enlevés, balayés, peut-être des choses dont tu as honte. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu voit, Dieu est avec l'homme contrit et humilié parce qu'il veut. Il veut et il a donné son Fils pour cela, que nous puissions connaître la nouvelle naissance, comme nous l'avons chanté. Tu peux naître de nouveau, repartir à zéro. Dieu veut que nous puissions connaître la paix, la joie, l'espérance, ces choses qui sont là, qui ne sont peut-être que virtuelles pour l'instant, mais qui demeurent néanmoins des réalités spirituelles et des réalités qui peuvent être pour nous ce soir. Le premier point, c'était Jésus ne se lasse pas de toi, de nous. Le deuxième point, c'est le monde, lui, se lasse de nous, par contre. Le monde se lasse de nous. Parce que lorsque nous avons lu ce texte, nous voyons Jésus-Christ rentrer de nouveau. Et il y a ce verset qui était là, et qui est ainsi écrit. Les hommes qui étaient là dans la synagogue, les hommes religieux, l'homme peut-être à la main sèche, je ne sais pas comment lui il a vécu ces instants, il est écrit qu'ils regardaient Jésus. Parce que leur souci, c'était de pouvoir l'accuser. Leur souci, ce n'était pas l'homme à la main sèche. Leur souci, ce n'était pas que cet homme puisse être guéri. Leur souci, ce n'était pas que le bien puisse être fait. Leur souci, ce n'était pas qu'il puisse y avoir une bénédiction. Mais leur souci, c'était d'accuser Jésus. Ils regardaient pour voir s'il allait le guérir. Autrement dit, tout le monde connaissait le problème de cet homme. Tout le monde savait que cet homme avait un problème. Les hommes religieux le savaient, mais ça n'a pas changé sa vie à cet homme. On pourrait dire, mais la religion, ça peut être une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. La morale, ça peut être une bonne chose, une excellente chose, d'essayer de marcher en disant, j'essaye de faire du bien, j'essaye d'être correct dans ma vie, j'essaye de suivre un bon chemin, selon l'éducation que j'ai eue, c'est quelque chose de très bien. Mais ce n'est pas ça qui va enlever cette sécheresse interne. C'est pas ça qui a pu changer son existence à cet homme. Peut-être que cet homme savait que son mal était connu. Peut-être que cet homme espérait qu'on vienne le voir un jour. Alors que dans ce lieu était lue la loi de Dieu, dans ce lieu était lue une partie de la Bible, du salivre. Peut-être que cet homme espérait qu'une fois un homme s'approche de lui en lui disant « Mais tu sais, je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. » Peut-être que cet homme s'était confié en disant « Mais voilà mon problème, je ne peux pas travailler. Je suis comme un misérable, je suis obligé peut-être, je ne sais pas, de mendier, je suis obligé d'aller chez les uns et les autres. » Parce que je ne peux pas avoir de dignité, parce que je ne peux pas avoir ma propre identité. À l'image de ce que nous dit la Bible, cet homme se nommait l'homme à la main sèche. Peut-être que ce soir, toi, lorsque on te regarde, ton entourage te regarde, peut-être il te nomme d'une certaine manière, tiens, cet homme-là n'arrivera jamais à rien faire dans sa vie. Peut-être que cette jeune femme, cette jeune fille n'arrivera pas au niveau professionnel, tu n'as pas les capacités, peut-être c'est des choses que tu as entendues. Peut-être ton passé là en disant, mais voilà, c'est cette personne qui a fait ceci ou cela, et ainsi, dans notre vie, dans notre existence, se charge des choses sur notre âme. Tout le monde savait, pourtant personne n'a pu le faire ce soir. On n'est pas là pour essayer de comparer les religions, on n'est pas là pour critiquer les religions, on n'est pas là pour dire ceci ou cela, on est là pour dire, mais Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. On est là pour parler d'une relation, on est là pour parler d'un cœur à cœur, de ce que Jésus-Christ veut instaurer entre lui et l'humanité et les hommes, toi, moi, chacun d'entre nous, comme Antoine nous l'a présenté ce soir. Jésus-Christ est mort sur cette croix pour que nous puissions connaître ce que c'est réellement être pardonné de nos péchés, pour connaître ce qu'est réellement une nouvelle vie, une nouvelle existence. Cet homme, on peut dire peut-être qu'il connaissait Dieu, vous savez. On pourrait le comparer à une personne qui viendrait dans ce lieu, qui a eu une éducation religieuse, qui a été enseignée. Mais cet homme, alors qu'il y espérait, peut-être qu'il venait, peut-être que, on ne sait pas, on peut tout imaginer encore une fois, peut-être que ça faisait des mois qu'il était comme ça, des années. Peut-être qu'au début il se disait, mais peut-être que Dieu va faire quelque chose pour moi. Je vais aller à la synagogue, peut-être que Dieu va faire quelque chose. Combien on rencontre de personnes aujourd'hui qui utilisent le nom de Dieu, mais qui mettent de côté Jésus-Christ ? Combien on rencontre de personnes qui disent « Mais je prie Dieu, vous savez, je prie Dieu. » Mais si on ne passe pas par Jésus-Christ, c'est en vain. Parce que la Bible nous enseigne, nous exprime qu'il y a un seul médiateur. Il y a un seul chemin qui nous mène vers Dieu. Ce n'est pas notre caractère, ce n'est pas comment nous sommes, ce n'est pas notre façon de penser qui va nous mener vers Dieu. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres que nous allons être guidés par Dieu, mais c'est parce que Jésus-Christ s'est offert. Et cet homme a bien vu que la religion ne pouvait mener à rien. Il y a un texte dans Ésaïe qui m'a fait penser à ce qu'il pouvait vivre. Il est écrit dans Ésaïe 49, je le lis pour vous au verset 14, « Sion disait », on pourrait traduire « Jérusalem disait », mais on pourrait dire « Peut-être ton prénom, votre prénom. À un moment donné, dans ma vie, je pourrais mettre, oui, Jonathan disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et c'est un risque, un danger qu'il y a dans une vie, dans une existence, où on peut penser que oui, Dieu m'a oublié. Est-ce que ça nous est déjà arrivé ? Alors qu'on attend, alors qu'on prie, on ne sait pas, on a l'impression que rien ne se passe. Alors on est tenté de dire, mais oui, mais l'Éternel m'abandonne. Dieu, le Seigneur m'a oublié, Jésus-Christ m'a oublié. Mais ce soir, j'aimerais vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Ce soir, peut-être que cet homme, jour après jour, espérait que quelque chose allait changer. Et le jour qui a été vraiment le jour du changement, le jour de son bouleversement, ça a été pas un jour comme les autres, ça a été le jour où Jésus-Christ est venu, mais également où il a voulu rentrer, où il a été obéissant envers ce que Jésus-Christ lui disait, on le verra un petit peu plus tard. L'homme à la main sèche. Je réfléchissais, je me suis dit, mais peut-être que cette main sèche pour lui, pour cet homme dans sa vie, c'était peut-être le reflet de ce qui se passait en lui. C'était peut-être l'image de son cœur, l'image de sa vie, l'image de ce qu'il pouvait vivre au quotidien, l'image peut-être de sa tristesse. On pourrait traduire, vous savez, « main sèche », il y a plusieurs traductions. Et bien sûr, vous comprendrez qu'on peut dire « rendre sec ». On pourrait traduire par « tarir », « se dessécher », « flétrir ». Une autre traduction pourrait dire « mais être fané ». L'image d'une rose, l'image d'une fleur, vous mettez la fleur que vous préférez, l'image d'une belle fleur qui se fane. C'était ça l'image de sa main, l'image de sa vie. Au début, il y a la vie. Au début, peut-être que cet homme se disait « mais mon avenir est tout tracé, professionnellement je sais où aller, sentimentalement je sais où aller, j'ai déjà des idées, j'ai déjà une vision. Au début, il y a la vie. » Mais la vie sans Dieu, c'est ça la finalité. On pourrait traduire différemment la vie avec le péché. C'est ça la finalité. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait traduire, mais la vie va se faner sans Dieu. L'existence se fane sans Dieu. À une autre traduction, on pourrait dire, c'est un nom technique, je l'ai recherché, je ne le savais pas. Ça veut dire sectarius. Et en fait, ça renvoie à un récipient d'une contenance à peu près d'un demi-litre. Je crois que c'est 54 centilitres. Et ce récipient a été utilisé pour prendre de l'eau, du vin, et c'était la mesure, une mesure d'unité de l'époque. Et on peut comprendre que ce récipient était vide. C'est un récipient qui ne peut pas être utilisé. C'est un récipient qui ne peut pas aboutir, qui n'a pas de finalité. Et vraiment, j'insiste, mais je pense que lorsque nous lisons ce texte, peut-être qu'on l'a lu rapidement, peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on le lit, on se dit, oui, l'homme avait la main sèche, Jésus arrive, il va questionner les hommes religieux, il va le guérir, c'est merveilleux. Mais on ne sait pas ce qu'a été son quotidien. On ne sait pas ce que cet homme vivait. Mais moi, je pense quand même que cet homme, chaque jour, se disait, mais je fane un peu plus. Chaque jour, ma vie ne peut pas être utile. Chaque jour, alors qu'on espère à être utile, on espère pouvoir faire ceci ou cela, chaque jour, cet homme pouvait se dire, mais encore une journée où je n'ai pas pu faire ce que je voulais, encore une journée où ma vie restait la même, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et j'insiste parce que c'est ça qui va tout changer. Et c'est mon troisième point, je terminerai avec ce troisième point. Parce que Jésus nous invite à lui faire confiance. Jésus va dire aux hommes religieux, aux pharisiens, en disant, mais est-ce qu'on peut faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Est-ce qu'on peut sauver ou tuer? Alors, nous, ça nous surprend lorsque Jésus-Christ dit ça. Mais on peut comprendre que si on ne fait pas le bien, ça veut dire qu'on est prompt aussi à faire le mal. Ça veut dire que si on ne veut pas sauver... mais on peut mettre à mort. Et Jésus-Christ voulait vraiment susciter l'interrogation. Et ce texte, je l'ai dit en introduction, m'a toujours interpellé, parce qu'à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, on voit des personnes qui vont interpeller Jésus-Christ, qui vont aller vers lui, en lui disant, « Je suis aveugle, sauve-nous, ma fille est malade, viens, interviens, mon serviteur est malade et sur le point de mourir. » Des personnes qui viennent interpeller Jésus, et on voit Jésus qui répond. Mais là, c'est Jésus qui va interpeller cet homme. On voit que c'est Jésus qui va lui dire, mais voilà, et Jésus va lui dire deux choses. Il va dire, il va s'adresser en premier aux hommes religieux pour l'enseigner, pour les enseigner. Et après, il va se tourner vers cet homme, parce que quand même, moi, je suis convaincu que s'il était venu là, ce jour-ci, dans cette synagogue, c'était pour cet homme. Et la sensibilité de Jésus-Christ, cet homme ne pouvait pas se manifester, c'était le jour de sabbat. Il ne voulait pas avoir peut-être les insultes des hommes religieux, la sensibilité de Jésus-Christ. Peut-être il y a des choses que tu ne te sens pas de faire. Peut-être pour toi tu te dis, mais non, c'est au-dessus de mes forces. Peut-être tu te dis, mais j'arriverai jamais à faire ceci ou cela. Peut-être, je ne sais pas, tu t'imagines tout un tas de choses, mais laisse-moi te dire que c'est Jésus qui va faire le premier pas et qui a fait le premier pas. Si tu n'y arrives pas, mais Jésus est là. Si pour toi c'est trop difficile, Jésus va se tourner vers cet homme et va lui dire, mais lève-toi là au milieu. Et c'est la première chose qu'il va lui dire. Et pour nous, c'est vraiment un enseignement. Lève-toi là au milieu. On peut remettre dans le contexte, j'en ai un petit peu parlé, mais vous savez, dans la synagogue, n'importe qui ne pouvait pas prendre la parole. C'était des hommes religieux, érudits, qui avaient peut-être l'habitude de s'exprimer, des personnes qui voulaient parler par rapport à un commentaire, par rapport au texte biblique, une partie de la Bible, l'Ancien Testament. C'était peut-être des personnes qui étaient aisées, qui pouvaient facilement parler, mais cet homme-là, personne ne lui aurait demandé de se lever. Parce que quand on se levait, c'était pour parler. Cet homme-là, personne ne voulait le considérer. Cet homme-là, pour les autres, peut-être que c'était rien du tout. Mais pour Dieu, c'était tout. Pour Dieu, lui, c'était sa vie. Et pour Dieu, c'est ça, parce que Dieu a voulu donner Jésus-Christ pour que nous puissions vivre. Il y aurait eu une seule personne, Dieu aurait envoyé son Fils. Il n'y aurait eu qu'une seule personne qui aurait eu besoin du salut. Dieu aurait quand même donné son Fils pour que nous puissions être secourus. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés de nos péchés, que nous avons le pardon. Tel que nous sommes, il faut venir vers Dieu. On n'a pas besoin d'être extraordinaire, on n'a pas besoin de savoir bien parler, on n'a pas besoin d'être ceci ou cela. Jésus-Christ n'attend pas qu'on soit différent, Jésus-Christ nous connaît. Il savait qui était cet homme, il savait comment était cet homme, il connaissait peut-être sa timidité, il ne voulait pas le mettre à mal, mais il va lui dire, mais lève-toi au milieu parce que pour toi il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Parce que si les autres te dénigrent, si les autres te regardent avec un mauvais regard, pour Jésus-Christ, tu es précieux, tu es précieuse. Dans la parole de Dieu, j'ai noté ce verset qui m'a vraiment parlé. C'est dans Osée, je le lis pour vous, Osée chapitre 13. « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. » Et voilà ce que Dieu va dire. « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Je t'ai connu dans le désert. Dieu ne dit pas, mais je t'ai sauvé lorsque tout allait bien pour toi dans ta vie. Lorsque Jésus va s'approcher de cet homme, il n'a pas attendu que cet homme, il aurait pu dire, mais je vais attendre qu'il soit bien apprêté, je vais attendre qu'il ait une situation professionnelle, je vais attendre qu'il ait fait des bonnes œuvres pour aller le voir, je vais attendre ceci ou cela. Non, Dieu dit, mais je t'ai connu dans le désert. Je t'ai connu dans ta sécheresse. Je t'ai connu quand ça va mal. Je t'ai connu dans tes souffrances. Je t'ai connu dans une terre aride. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas ça qui va faire détourner les regards de Dieu dans notre vie, sur notre vie. Ce n'est pas ça qui va changer les sentiments de Jésus-Christ à notre égard. Ce n'est pas ça, bien au contraire. On pourrait approprier, faire vraiment transposer ce verset avec ce que cet homme à la main sèche pouvait vivre. Mais je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Mais je veux te secourir, je veux te sauver. Quelqu'un a pu dire cela une fois, une personne qui, je pense, a rencontré et a expérimenté l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en son amour, en l'amour de Dieu, parce que c'est de croire en son amour qui va te changer. Tu n'as pas besoin d'être différent pour accéder à Dieu, parce que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est Dieu qui est venu vers nous. Ce n'est pas à nous de monter parce que de toute manière, on ne peut pas atteindre le cœur de Dieu. Ce n'est pas à nous de faire des efforts parce qu'on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas à nous de dire, mais je vais essayer de faire ceci ou cela. La seule chose qu'on doit faire, c'est lève-toi là au milieu. Considère que peut-être ce que Jésus-Christ dit, c'est la vérité. Lève-toi comme pour proclamer à tous ceux que tu côtoies, comme pour proclamer à ta propre vie, à ton propre cœur. Oui, je crois que Jésus-Christ est le sauveur de mon âme. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi et qu'il peut m'accorder le pardon de mes péchés si je me repens, si je lui demande pardon. Lève-toi là au milieu. La deuxième chose qu'il va lui demander, et là vous allez dire, vous le voyez avec moi, il va dire, étends ta main, étends ta main. Et là, on est gêné. Moi, je ne sais pas comment vous vivez ce texte, mais on est gêné pour cette personne. Parce que c'était sa honte, il avait l'habitude de la cacher. Il ne voulait pas que les autres le voient. Et Jésus-Christ va dire, mais étends ta main, étends. Et on pourrait se dire, mais là, Seigneur Jésus, tu as un peu exagéré. Est-ce qu'il aurait pu le guérir sans que cet homme étende sa main? Il aurait pu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il aurait pu. Celui qui a fait le ciel et la terre, l'univers, aurait pu dire là où il était, mais voilà, je te guéris de ta main, il aurait pu. Mais Jésus veut voir notre foi. Jésus veut voir notre obéissance. Il veut que nous puissions expérimenter sa parole, sa vérité. Il veut que nous puissions expérimenter ce qu'il a à nous dire d'une manière véritable pour notre vie. Et lorsqu'on traduit le mot « étends ta main »,« étends », la racine de ce mot se compose de deux parties. Une partie, c'est « étendre », et l'autre partie, c'est « hors de ». Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la première partie de ce mot, c'est le mot qui a formé l'Église. L'Église, hors d'eux. Vous savez, l'Église, c'est hors, on pourrait traduire comme ça, hors du monde. Un peuple qui est mis à part, en dehors du monde. Et lorsque Jésus va lui dire, mais étends ta main, c'est comme s'il lui dit, mais il faut que ça soit hors de toi. Il faut que tu prennes ça par la foi. Et on pourrait comprendre, hors d'eux, ça veut dire que c'est hors de la personne. Le péché, je le traduis comme ça ce soir, le péché est hors de la personne pour aller sur Jésus-Christ. Parce que c'est cela que la Bible nous le dit. Hors d'eux. Le péché hors de toi pour qu'il puisse aller sur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui a porté nos souffrances. Et c'est parce que lui a porté... C'est parce que lui a voulu se charger de notre péché que nous puissions être libérés, que nous pouvons être libérés. C'est parce que nous avons expérimenté et que nous pouvons expérimenter hors de moi. Oui, le péché peut être hors de toi ce soir. La culpabilité peut être hors de toi. Le dessèchement peut être hors de toi. La terre aride, une vie sans eau, une vie sans vie, une vie qui est là, sec, où la marche est difficile, peut être hors de toi, parce que Jésus a payé le prix. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hors d'eux. Et ce soir, j'aimerais terminer, j'avais un autre texte, je vais terminer avec cet autre texte, si vous le permettez, mais avec cette pensée que c'est possible. C'est possible pour vous, c'est possible pour chacun d'entre nous de vivre ce que cet homme a vécu. Peut-être que ça va te coûter, c'est possible. Peut-être que tu vas te dire, mais j'ose pas, c'est difficile de se lever, de prendre position dans ce monde, de ne pas rester assis avec les hommes religieux qui critiquent Jésus-Christ, mais de se lever pour dire, mais voilà, moi je choisis Jésus-Christ. Peut-être que ça va te coûter lorsque tu vas être face à Jésus-Christ et de dire « Voilà Jésus, j'ai fait ça de mauvais. Voilà mes péchés. » C'est ce que nous pouvons dire, la repentance, lorsque nous reconnaissons que nous avons heurté le cœur de Dieu. Peut-être que ça va te coûter de voir que finalement, tu n'es pas cette personne, excusez-moi de vous le dire comme ça, cette personne si extraordinaire que ça. Peut-être que tu pensais que finalement ta vie... C'était bien par rapport à d'autres, parce qu'on aime bien se comparer. Mais devant Dieu, il ne s'agirait pas de se comparer avec telle et telle personne. Devant Dieu, on sera seul face à lui-même. Peut-être que ça va te coûter, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, la finalité pour cet homme. C'était la guérison, et pour nous, la finalité ce soir, comme nous l'avons lu. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Est-ce que nous allons l'attendre? Est-ce que nous sommes prêts à attendre Jésus-Christ lorsqu'il va revenir? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être hors de nous pour que ça soit réglé? En tout cas, c'est chacun d'entre nous de répondre à cela. Mais Jésus-Christ, sachez une chose, c'est que ce soir peut vous libérer, peut vous bénir. Si vous acceptez de répondre à cette invitation, je finirai avec ce verset dans Ésaïe 58. Il est écrit à partir du verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et regardez ce qu'il est écrit. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un homme qui toute sa vie a pu se dire « Mais je suis un bon à rien, je ne peux rien faire, parce que ma main, mon membre est sec, parce que ma vie est sec. » C'est Ésaïe qui le dit, mais on peut transposer, vous comprenez vraiment la pensée. Je me suis imaginé que c'était ça la vie, la fin de cet homme. Et peut-être que ça peut être ta vie. Tu te dis, mais toute ma vie, là, jusqu'à maintenant, ça a été sec, ça a été aride, ça a été sans fruits, ça a été sans rien. Mais une rencontre avec Jésus-Christ, ça peut bouleverser une existence. Une source dont les eaux ne tarissent jamais. Il n'y aura plus de sécheresse. Parce que c'est Jésus-Christ la source, parce que c'est vers lui que nous devons boire, c'est vers lui que nous devons aller pour être rassasiés. On prie le Seigneur un instant, si vous le voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci parce que tu nous rappelles combien tu nous aimes. Merci pour cette invitation que tu nous fais ce soir, d'être dans ta présence et que nous puissions aller plus loin avec toi. Seigneur, je te prie parce que peut-être dans ce lieu, il se trouve des personnes qui ont une sécheresse en eux, qui sont secs, qui se fanent petit à petit. Au début, il y avait la vie peut-être, mais là, au fil des jours, au fil des semaines, des mois, peut-être la vie s'en va. Père, s'il te plaît, montre-leur que la véritable vie est en Jésus-Christ, celui qui a les sources de la vie. Celui qui nous invite à venir boire auprès de lui pour être rassasié. Mon Dieu, merci parce que tu es celui qui peut pardonner, tu es celui qui peut restaurer, tu es celui qui nous invite, une fois que nous sommes restaurés, à être réparateurs des brèches, à notre tour, à pouvoir témoigner, à pouvoir dire ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Merci parce que la restauration est complète, totale. Merci parce que tu veux bénir. Et tu veux pardonner ce soir. Tu veux guérir peut-être une infirmité. Tu veux guérir peut-être quelque chose qui est sec. Seigneur, toi seul le sais, tu es souverain. Et oh Seigneur, dans ces instants, manifeste-toi avec grâce, avec amour. Et que peut-être des personnes puissent repartir de ce lieu en disant « Mais oui, ça y est, je veux me lever. Je veux étendre ma vie, ma main, pour que les péchés puissent être hors de moi. » Mon Dieu, merci parce que tu veux le faire. Et en ton Fils Jésus-Christ, tu nous as donné cette possibilité. Sois béni de toute éternité, mon Dieu. Amen.